Chapitre 51. Le temps que Jérémy Théobald reprenne ses esprits, Ariane alla fouiller l'espace exigu et encombré qui lui servait de salon et de chambre. Visiblement, elle l'avait interrompu alors qu'il dessinait les plans de ce qui ressemblait à une sorte de tonneau aménagé, destiné à être immergé. Une future performance, sans doute. Ariane retourna un meuble rempli de DVD porno et de magazines. Sur une étagère, à côté, traînait un paquet de photos. Des photos d'elle. En train de quitter la maison du Ménil. En train de monter dans sa voiture, téléphone à l'oreille. Des clichés très récents. Elle ouvrit ensuite la porte d'une armoire en pin collée au lit et découvrit, derrière les vêtements suspendus, un masque de porc. Elle s'en saisit avec écœurement. C'était bien celui du film. Une immondice en latex troué au niveau des yeux, des narines et de la bouche. Derrière elle, Théobald gesticulait à présent, les doigts repliés sur la chaîne.
« À quoi tu joues, espèce de petite pute ?»
Ariane s'approcha et s'accroupit devant lui. Elle le fixa avec mépris.
« Combien vous avez mutilé, violé ou tué de pauvres filles ? Est-ce que je suis censée faire partie de vos victimes ?»
L'antivol était tellement serré autour de son cou qu'une grosse veine bleue saillait sur sa tempe. Ariane n'avait peut-être pas laissé assez de jeu, mais peu importait. Il pouvait crever.
« Va te faire foutre » cracha-t-il. « Explique-moi pourquoi vous faites ça. Toi, Mölzer, toutes les autres ordures qu'on voit sur les vidéos. Pourquoi vous avez torturé, assassiné et abandonné cette femme dans une cave sordide ?»
Malgré la situation, le type réussissait encore à afficher un sourire malsain. Elle aurait pu jurer qu'il jubilait.
« Je vois que t'es allé chez Mölzer, mais apparemment t'as pas vu le vieux à l'étage. Il doit être dans un sale état lui aussi. On s'est arrangé pour qu'il crève bien sagement dans son lit. Une injection de potassium et bye-bye. Y en a qui savent faire, tu sais, tromper les flics et la science. Mölzer avait fait une connerie en paumant sa putain de bobine. Fallait qu'il emporte ses secrets. Et qu'il paie. Comme toi, tu vas payer !»
En un éclair, il écarta les jambes et les referma sur la nuque d'Ariane, la précipita au sol, lui agrippa les cheveux avec les mains. Elle se débattit et poussa de toutes ses forces vers l'arrière, jusqu'au moment où elle perçut un borborygme. Aussitôt, la pression se relâcha. Le visage de Théobald était devenu cramoisi. Son larynx produisait un étrange sifflement. On aurait dit un poisson échoué sur une berge, essayant de récupérer de l'oxygène. Lorsqu'il respira de nouveau normalement, il lui adressa un regard chargé de haine.
« Salope ! On va te buter, tu l'as pas compris ça ? Qui, on ? Qui est l'homme à la tête de taureau ? Tu le sauras bientôt, tu l'auras même en face de toi, et tu le supplieras de te tuer dès que tu pigeras ce qu'il est capable de te faire. »
Ariane sut à cet instant qu'il n'en dirait pas plus. Ce mec avait l'habitude de se cloîtrer des journées entières dans des espaces confinés et de tenir dans des positions impossibles, sans compter qu'il n'avait pas peur d'elle. La jeune femme observa alors autour d'elle, réfléchit, se rendit dans le coin cuisine, remplit une casserole d'eau et la mit sur le vieux brûleur alimenté par une bouteille de gaz. Théobald ne la quittait pas des yeux, collé à son piquet. Quand l'eau se mit à bouillir, elle prit une large inspiration, revint vers lui d'un pas décidé et versa, impassible, une gerbe sur son pied nu. Il hurla, s'étrangla encore plus. De l'écume apparut à la commissure de ses lèvres.
« Combien ? Combien de pauvres filles ? Réponds ou je te balance le reste à la figure. »
Il toussa longuement. Il grimaçait.
« À quoi ça va te servir de savoir, putain ? Tu te prends pour qui ? Une justicière comme l'autre ? T'as vu comment elle a fini ?»
Sans s'énerver, elle plaça la casserole juste au-dessus de sa tête.
« Combien ? Cinq, six, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Elles étaient rien, elles avaient pas de nom. C'était simplement des objets de plaisir, de colère, de tout ce que tu veux. On le fait parce que ça nous botte, parce qu'on peut se le permettre. Cherche pas d'explication à ça, y en a pas. »
Des objets. Cinq, six, il ne savait même pas. Autant de familles détruites, de gens qui attendaient depuis des années un signe de leur disparue. Et lui, il en riait. Ariane empoigna plus fermement le manche de la casserole. Un nuage de vapeur s'en échappait encore. Et moi? Qui je suis? Pourquoi je dessine le labyrinthe du film?
T'as perdu la mémoire, hein? C'est ça, tu te souviens plus de rien.
Ariane acquiesça. Théobald plaqua l'arrière de son crâne contre le piquet, libérant la pression sur sa trachée.
Tu le dessines parce que t'es déjà allé là-bas. Il t'a forcé à assister à une de nos petites soirées un jour. T'étais sa chose.
De nouveau ce sourire.
T'aurais vu sa tronche quand je lui ai montré les photos que j'ai prises de toi il y a 2 jours. Il était scié. C'était comme un miracle pour lui. Ça faisait des plombes qu'il essayait de te retrouver. Il nous avait parlé de toi, de votre relation, de ce qu'il avait fait.
Ariane sentait la peur la submerger. La peur de savoir, de découvrir la vérité que son esprit lui cachait avec tant de force.
Et aussi incroyable que ça puisse paraître, t'étais là, dans la baraque de celle qui détenait la bobine capable de nous faire tous plonger. C'était comme, je sais pas moi, une espèce de boucle improbable qui se refermait.
Qui ça, il? Qui m'a forcé à assister à ces monstruosités?
Ton homme à la tête de taureau? Le Minotaure.
Ariane se recula pour être hors d'atteinte et posa la casserole par terre. La sensation oppressante au fond de sa gorge revenait. Il fallait qu'elle se calme, qu'elle respire. Son cœur battait trop fort, trop vite. Soudain, à travers le claquement des gouttes sur la tôle, il lui sembla percevoir un bruit de moteur. Puis un faisceau de lumière balaya l'intérieur de la caravane avant de se figer sur la cloison au-dessus du lit. Le bruit s'interrompit. Théobald la scruta avec une jouissance manifeste.
« Ils viennent me chercher, parce que c'est ce soir qu'on devait débarquer chez toi et te tuer. L'avantage, c'est qu'on n'aura même pas à se déplacer. »
Ariane se précipita vers la fenêtre fouettée par la pluie. Deux phares immobiles trouaient les ténèbres à 10 mètres. Aussitôt, elle bascula sur le côté, s'élança pour fuir, mais Théobald tendit une de ses jambes et la faucha. Elle s'écrasa sur le sol, sa tempe gauche heurta le linoléum. Elle se redressa, à moitié assommée. Le type riait aux éclats. Animée par la haine, Ariane s'empara de la casserole et lui envoya le contenu bouillant au visage. Le hurlement de douleur qui envahit l'espace fut inhumain. Elle se jeta sur la porte et l'ouvrit. Éblouie, elle dut plisser les yeux pour discerner, plantée entre les phares, une imposante silhouette noire. Deux cornes luisantes s'élevaient vers le ciel. Il était l'objet de ses cauchemars, cette main recroquevillée qui, depuis son ventre, remontait jusqu'à sa trachée. Derrière, les portières claquèrent, l'attirant de sa sidération. Le monstre à tête de taureau fondit sur elle, des ombres lui emboîtèrent le pas. Ariane se rua alors sur le côté de la caravane et s'enfonça dans les allées de ferraille. Coup de fouet immédiat de l'adrénaline dans ses artères. Elle courait pour sa survie. Elle gagna les premiers alignements de véhicules, slaloma entre les épaves, à droite, à gauche, tourna à 90 degrés, s'engagea dans des gorges d'acier. Elle avançait courbée quand elle se sentait à découvert, reprenait de la vitesse entre les murailles de tôles empilées. Elle aperçut la griffe suspendue, puis la boule, retrouva un second souffle en sautant par-dessus une flaque et accéléra encore. Dissimulée par le squelette d'un van, elle tenta un bref regard vers ses poursuivants. Distingua, en dépit du rideau de pluie, une silhouette lointaine d'un côté, une lampe balayant les voitures d'un autre. Elle entendait les voix qui communiquaient entre elles. Ces types la traqueraient jusqu'en enfer s'il le fallait. Elle ne s'attarda pas plus, enjamba des fauteuils et d'autres choses qu'elle n'identifia pas, puis tomba sur le chemin qui conduisait au grillage branlant. Un instant plus tard, elle traversait la route, hors d'haleine. L'endroit était désespérément vide. Ariane essuya l'eau qui ruisselait sur son visage et sprinta jusqu'à l'entrepôt le long duquel elle s'est égarée. Les images s'entrechoquaient dans sa tête, comme des flashs douloureux, aveuglants, jaillis d'un stroboscope. Carcasse animale, sang, labyrinthe, cornes, cadavres, tout ça défilait à un rythme fou, tel un film dépourvu de sens qu'on se passe en avance rapide. Enfin, sa voiture. Elle s'y engouffra et démarra en trombe. Au bout d'un kilomètre, les maisons réapparurent. Elle s'engagea dans une rue, sans ralentir, grilla un feu rouge, tourna et donna un violent coup de frein quand une berline surgit à sa droite en provenance d'une rue perpendiculaire. Le crissement fut aussi infernal qu'interminable et un gros boum claqua à l'intérieur de son coffre. Ariane crut qu'elle allait mourir. Les deux véhicules finirent nez à nez. L'autre conductrice sortit, livide. Elle se dirigea vers la portière d'Ariane.
« Ça va pas ou quoi? Vous avez failli nous tuer !»
Ariane était chancelante, perdue. Elle sortit à son tour, titubante, observa les alentours. Qu'est-ce qu'elle fichait ici, en pleine ville? Est-ce qu'elle s'était trompée de direction?
« Je suis désolée, je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, mais on est où, là ?»
La femme écarquilla les yeux, la scruta de la tête aux pieds, ses vêtements trempés, la boue sur ses chaussures. Puis elle se recula, regagna son siège et se remit en route sans demander son reste, abandonnant Ariane au milieu de la chaussée. Déboussolée, celle-ci ouvrit son coffre pour voir ce qui avait provoqué un tel bruit. Constata que sa valise à roulettes avait valdingué au moment du freinage. Elle ramassa le cahier et la documentation imprimée qui s'était dispersée sur la moquette. Naufragé des ondes, hameau déserté, zéro onde, HES. Elle rangea tout, veilla à refermer correctement chaque poche de son bagage et, une fois derrière le volant, consulta son GPS. La dernière adresse enregistrée était celle d'une casse de Noisy-le-Grand. C'était quoi ce bordel? Elle ne comprenait pas. Et qu'est-ce que cet appareil faisait là dans sa voiture? Ces trucs étaient pourtant dangereux pour elle. Elle le balança vite par la fenêtre, puis rejoignit l'autoroute A4. Dans cette nuit pluvieuse d'avril 2021, elle s'engagea plein est. De longues heures l'attendaient avant qu'elle atteigne le hameau du bout du Croc. Là-bas, enfin, elle allait peut-être pouvoir retrouver une vie normale, loin de ces ondes qui lui étaient devenues insupportables.